Nous vous diffusons un entretien réalisé avec deux membres du CADTM, le Comité d'abolition des dettes illégitimes, Eva Betavazzi et Milan Rivier, la première plus spécialisée dans la zone euro et le second dans les pays du Sud. Si vous êtes des fidèles de l'émission, ce dont je ne doute pas, cela doit vous rappeler quelque chose puisque nous avions eu Éric Toussaint, l'un des fondateurs de ce comité, en septembre 2018, autour de son ouvrage « Le système dette, histoire des dettes souveraines et de leur répudiation ». Il nous avait expliqué les mécanismes de mise en route des dérives capitalistes de ces dettes odieuses dans l'histoire.
Oui, ça démarre après la fin des guerres napoléoniques, donc dans les années 1820, une série de pays qui sont en train de conquérir leur indépendance cherchent à financer leur lutte d'indépendance. Il s'agit de leaders indépendantistes de l'Amérique latine, Mexique et de toute l'Amérique du Sud hispanophone, et aussi de la Grèce, parce qu'en Grèce, il y a des leaders indépendantistes républicains qui veulent se libérer de l'Empire ottoman, et ils ont besoin, ils estiment avoir besoin de financement, et ils s'adressent aux banquiers de Londres. Et ceux-ci, qui était à la recherche d'un maximum de clients parce qu'il y avait un climat de frénésie financière où les banquiers de Londres, qui était la place financière la plus importante à l'époque et qui est restée presque jusqu'à aujourd'hui, les banquiers de Londres cherchaient des clients. Et ils étaient très contents de trouver ce leader indépendantiste qui allait prendre la direction de pays nouveaux qu'ils allaient pouvoir endetter. Et ils ont profité de la situation, ces banquiers, pour imposer des conditions tout à fait abusives.
Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien sur notre site www.loldf.org. Le sujet est évidemment d'actualité brûlante avec la pandémie, mais nos deux invités commencent par remettre les choses un peu dans leur contexte, car la crise des dettes était en fait déjà bien là avant l'arrivée du Covid.
On est évidemment en plein milieu d'une crise, on entend énormément bien sûr parler de la dette comme du moyen auquel on recourt les États pour la gérer. On lit aussi quand même beaucoup que ce serait très réducteur de tout mettre sur le dos de cette pandémie et que il y avait quand même des signes avant-coureurs de crise et que c'est de toute façon cyclique. Est-ce que c'est effectivement très réducteur de mettre sur le dos de la pandémie toute la situation dans laquelle on est au niveau des dettes?
Oui, en tout cas au niveau européen, ça c'est sûr et certain, et au niveau mondial aussi par ailleurs. Déjà parce que l'Union européenne a jamais, enfin les pays membres n'ont jamais respecté les règles budgétaires qui s'étaient imposées, enfin au départ à la signature du traité de Maastricht en 92. Donc en 92 pour les Français. En fait, ces règles, c'était de pas dépasser donc le ratio dette PIB des pays, de pas dépasser 60%. Et ensuite, il y avait des règles sur les déficits budgétaires publics qui, eux, ne devaient pas être supérieurs à 3% du PIB des pays. Et en fait, depuis des années, aucun pays n'a vraiment respecté ces règles de manière orthodoxe tous les ans. C'est-à-dire que il y a 5 pays, dont la France, qui est quand même une économie importante de l'Union européenne, qui avaient des dettes qui étaient même supérieures à 100% en 2019. Donc, ça veut dire que la crise de la dette, en quelque sorte, elle existe dans les pays de l'Union européenne depuis bien longtemps. Et donc, la pandémie, elle vient exacerber quelque part une crise qui existait déjà. On n'est jamais vraiment sorti de la crise de 2008. Les plans d'austérité qui ont découlé de la crise de 2008 étaient toujours d'application, justement pour rembourser ces dettes publiques-là. Ça montre que même si le discours dans les médias était qu'on était sorti de cette crise-là, c'était plutôt un mythe qu'une réalité. Et on le voyait d'ailleurs dans toutes les coupes budgétaires. Je veux dire, il ne faut pas être économiste pour se rendre compte que effectivement les coupes budgétaires continuaient à peser sur les populations de l'Union européenne.
En fait, la pandémie de Covid-19, pardon, elle est venue amplifier une crise qui était déjà en cours. Depuis 2017, tout le monde s'accordait, aussi bien les orthodoxes que les hétérodoxes à dire qu'une nouvelle crise financière allait arriver. Et donc, et d'ailleurs, en septembre-octobre 2019, il y a la Réserve fédérale, donc qui est la banque centrale des États-Unis, qui a injecté énormément de liquidités, parce qu'en fait, il y avait énormément de secousses et de remous au niveau des bourses mondiales. Et donc, la pandémie de Covid-19, en fait, a été l'élément déclencheur d'une crise économico-financière latente, et qui est la conséquence. Comme le disait Eva, on n'est jamais sorti de la crise de 2007-2008. Et contrairement aux grands discours, il y avait notamment eu les grandes déclarations, pour ne parler que de la France, de Sarkozy, puis de Hollande, pour dire qu'on allait moraliser le capitalisme et que l'ennemi, c'était la finance. En fait, il n'y a aucun changement significatif qui a été fait en termes de réglementation bancaire, d'une part, et de comportement spéculatif sur les marchés financiers, d'autre part. Et donc, ce qui a conduit en fait, à une énorme augmentation de la dette privée, mais aussi de la dette publique. Et donc, pour les pays du Sud, au CADTM, mais pas que, on parle d'une nouvelle crise de la dette déjà depuis 2015, parce qu'en fait, tous les effets sont réunis. Et puis, si on regarde depuis 2010, entre 2010 et 2020, en fait, la dette extérieure publique des pays du Sud, elle a plus que doublé. Et donc, aujourd'hui, la dette extérieure publique des pays du Sud, c'est à peu près 3 000 milliards de dollars. Pour parler de l'Afrique, en particulier, voilà, pour terminer là-dessus, il y a une série de pays effectivement qui sont en grande difficulté. Bon, il y a eu notamment le Mozambique, le Congo, l'Angola, le Ghana également, mais pas dans une très bonne situation. L'Afrique du Sud, mais en fait, il y a vraiment tout un tas de pays qui ont des grandes difficultés de paiement. Le Soudan, la Somalie également. Mais là, ça s'est concrétisé en novembre, il y a à peu près une semaine. Mais avec le premier défaut de paiement depuis que la Covid-19 a été déclarée comme pandémie. Et donc, c'est la Zambie qui est rentrée en défaut de paiement et qui n'est plus en mesure de rembourser sa dette vis-à-vis de ses créanciers.
Concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qui emprunte à qui? Qui aujourd'hui bénéficie de cette dette qui augmente, enfin, qui explose littéralement?
Mais il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que ces deux limitations dont je parlais au début, donc le ratio dette PIB et le déficit budgétaire public, n'ont pas été suspendus indéfiniment. Ils ont été simplement mis entre parenthèses par une clause d'ailleurs d'un des pactes qui constituent les règles budgétaires de l'ensemble de l'Union européenne, qui est le pacte de stabilité et de croissance. Et donc, ça a été mis entre parenthèses pour un temps. D'ailleurs, la Commission européenne a prévenu récemment que tout ça serait fini en 2022. Donc, ça veut dire qu'on veut bien prêter de l'argent aux États, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit indéfini. En 2022, on va serrer la ceinture et les plans d'austérité vont probablement réémerger. Et tout ça dans un cadre coordonné par les institutions européennes. Donc, chaque pays ne fait pas ce qu'il veut. Donc, les plans de relance dont on parle, le plan de relance européen, c'est un plan qui a été proposé par la Banque Centrale Européenne et qui sert en fait à rassurer les marchés en rachetant les dettes des États. Et donc, c'est un plan qui a été annoncé comme étant un plan de l'ordre de 750 milliards d'euros. Et en fait, la BCE, elle, n'a pas le pouvoir de prêter de l'argent directement aux États, parce que ça aussi, c'est une des règles de l'Union européenne, c'est que la BCE prête de l'argent aux banques privées qui, elles, prêtent de l'argent aux États. Et donc, c'est les États qui émettent des obligations. Et ces obligations sont rachetées sur le marché primaire par des acteurs financiers. Et ensuite, la BCE intervient sur le marché secondaire. Donc, c'est un peu le marché opus des dettes, quoi, on va dire, pour simplifier. Ça rassure, en fait, les marchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, les États s'endettent sur des marchés privés. Ça veut dire que c'est les détenteurs de titres de capitaux qui bénéficient, en fait, de ce marché des dettes publiques qui augmente. Quelque part, c'est ces détenteurs de capitaux et donc c'est les capitalistes finalement qui vont recevoir les bénéfices d'un endettement croissant des États de l'Union européenne. Donc ça, c'est important de le dire parce que en fait, on a l'impression que tout ça se fait entre instances publiques, mais c'est pas tout à fait vrai. Et dans le cadre de l'Union européenne, c'est quand même vachement important de se dire que les États s'endettent auprès de créanciers parfois privés et donc qui vont devoir rendre des comptes à un moment donné sur les dettes qu'ils contractent à ces créanciers privés-là. Enfin, les chiffres sont énormes, c'est-à-dire qu'on parle de 750 milliards. L'État français, à la fin de 2020, il aura engagé 300 milliards pour lutter contre l'épidémie. Et 300 milliards, c'est 4 années de recettes de l'impôt sur le revenu, c'est 6 fois le budget de l'éducation nationale. Voilà, ça a l'air énorme en matière de... Enfin, quand on parle de dépenses publiques. Mais en même temps, quand on voit les profits, par exemple, d'Amazon, eh ben, c'est le profit d'Amazon pour un trimestre. Ça met en perspective et puis ça fait un peu peur parce que, voilà, du coup, ça veut dire que toutes ces dettes et le remboursement de ces dettes se fera d'abord par la population, par les contribuables français, tant qu'on voit qui a les moyens de rembourser ces dettes ou pas. Mais sauf que le remboursement se fera justement aux détenteurs de capitaux. Et donc, ça veut dire, en quelque sorte, qu'on voit très bien, et ça, on le savait depuis longtemps, mais c'est renforcé maintenant avec toute cette masse de dettes qui est contractée, c'est que les dettes, c'est un outil de transfert de richesse, en fait, entre des pauvres vers les riches. Même si on nous dit, voilà, les dettes vont servir à payer... à sauver les petites entreprises.
C'est exactement ce que j'allais vous demander. Du coup, c'est donc non seulement on va chercher cette dette et ceux qui vont en bénéficier, c'est déjà des capitaux privés, mais par ailleurs, l'intégralité de cet argent n'est pas destinée uniquement à soutenir les populations. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont au capital privé, aux grandes entreprises, etc.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, il y a beaucoup de cet argent des plans de relance qui va aller directement dans la sphère financière et qui va jamais être investi dans l'économie réelle, en fait. Parce que, justement, cet argent, il passe par les banques privées. Et donc, ces banques privées, elles n'ont pas toujours l'envie ou l'avantage d'investir cet argent dans l'économie réelle. Donc, l'image de l'écoulement de l'argent vers les gens, c'est totalement faux, c'est un mythe, quoi. Et puis, on le voit aussi parce que les marchés obligataires en ce moment, c'est-à-dire les marchés ou les obligations, c'est-à-dire les dettes publiques, sont échangées, ils sont dans un mood euphorique là en ce moment. Et d'ailleurs, les 10 dernières années, les marchés boursiers ont beaucoup plus progressé que la croissance réelle de l'économie. Donc, en fait, on continue sur cette même logique-là. Et finalement, les effets, ce sera probablement un écart croissant entre riches et pauvres. Et donc, oui, effectivement, il y aura une partie de l'argent qui sera dépensé pour aider les PME, pour aider peut-être, l'une ou l'autre structure publique. Mais au final, les chiffres exorbitants, on sait que la plus grosse partie des plans de relance annoncés seront directement transférés aux marchés financiers et donc aux détenteurs de capitaux.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front. On parle dette avec deux membres du CADTM, le Comité d'abolition des dettes illégitimes. Dans la première partie de l'entretien, on a vu que la pandémie n'avait été qu'un aggravateur, si toutefois ce mot existe, d'une situation déjà critique, que ce soit dans la zone euro ou comme on va l'entendre dans les pays du Sud.
C'est exactement les mêmes mécanismes, après qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes impacts, puisque les pays du Sud, ou ce qu'on appelle les pays en voie de développement, ne disposent pas du tout du même rapport de force au niveau international. Je veux dire par là qu'ils ne font pas partie des grandes instances informelles, qui sont par ailleurs assez illégitimes, comme le G20 ou le G7, ou alors qu'ils sont très fortement sous-représentés dans des institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI, qui sont deux acteurs prépondérants sur les questions d'endettement. En tout cas, ce qu'on a pu voir là avec la question du FMI en particulier, il faut savoir que le FMI, son rôle officiel, si vous allez sur son site internet, vous allez voir, c'est assurer la stabilité financière internationale. De facto, ça se traduit par un pays en difficulté vis-à-vis de sa balance des paiements, c'est-à-dire qu'il va être en difficulté pour rembourser sa dette, paf, le FMI intervient. Donc, quand le FMI intervient, généralement, ça veut pas une bonne chose. Si demain on entend le FMI intervient en France, il va falloir s'en réjouir du tout. Et donc le FMI va intervenir pour faire un certain nombre d'annonces et mettre un certain nombre de mesures en place visant, selon le discours officiel, à aider les pays. Et donc là, ce qui s'est passé à partir de, d'avril-mars-avril 2020. Je vais faire un petit rappel chronologique, mais je pense que c'est intéressant. Donc, en décembre 2019, on a la suspicion du virus en Chine. 30 janvier 2020, on a l'OMS qui déclare qu'il y a une épidémie. Et donc là, ça commence à provoquer un certain nombre de remous et une certaine panique chez les investisseurs, dans les bourses, près des actionnaires et des autres acteurs des marchés financiers. Et puis, le 11 mars 2020, l'OMS déclare que l'épidémie est une pandémie, c'est-à-dire qu'elle a un impact mondial. Et là, c'est le début de la crise économique que l'on connaît. Et donc là, il y a d'énormes impacts. Enfin, voilà, on a tous vu les bourses qui ont complètement dégringolé. Et puis, on a vu ensuite les plans de relance qui ont été annoncés de part et d'autre, que ce soit dans l'Union européenne, aux États-Unis, et puis j'en reviens dans le cadre des pays du Sud. Ça, c'était le 11 mars 2020, pandémie. 23 mars 2020, la Banque mondiale fait un appel à l'allègement de la dette des pays les plus pauvres. Donc, le 23 mars, la Banque mondiale qui appelle à l'allègement de la dette des pays les plus pauvres. Le 25 mars, le FMI joint la Banque mondiale et donc fait un communiqué commun pour l'allègement de la dette des pays les plus pauvres. Et puis, le 13 avril 2020, on a Emmanuel Macron qui nous fait une annonce tonitruante, annulation massive de la dette africaine. Et le 15 avril, donc deux jours après, vous avez la Banque mondiale, le FMI, le G20 et le Club de Paris. Le Club de Paris, c'est un club informel qui rassemble les plus grands États créanciers au monde, qui annonce qu'ils appellent l'initiative de suspension du service de la dette, dite ISSD. Le service de la dette, c'est la part du budget qui va au remboursement de la dette. Et donc, alors qu'on a la Banque mondiale et le FMI et Macron qui appellent à des annulations à tout va, et donc font des grands effets d'annonce qui sont repris en masse par les médias, et donc finalement, c'est ça qu'on va retenir, en réalité, il n'y a aucune annulation qui n'a été menée à l'encontre, enfin, en faveur des pays du Sud depuis le début de la pandémie. Et la seule chose qui a été faite, c'est un report de paiement de 6 mois, en fait, donc les paiements de la dette extérieure publique bilatérale, c'est-à-dire uniquement la dette due entre États. Désolé si c'est un peu technique, mais j'essaye de préciser. En fait, on divise la dette extérieure en trois catégories. La dette bilatérale, donc c'est la dette qui est contractée auprès d'autres États, par exemple le Sénégal qui emprunte à la France. Il y a la dette multilatérale, donc par exemple le Sénégal emprunte au FMI ou à la Banque mondiale, ce sont des banques de développement. Et puis enfin, la dette privée, donc ça, c'est quand voilà, le Sénégal, par exemple, emprunte, je ne sais pas, sur un fonds d'investissement sur les marchés financiers ou auprès d'une banque privée. En fait, c'est uniquement la part bilatérale qui représente seulement 20% de la dette extérieure publique des pays du Sud, dont on décide un report de paiement pour les mois comptant de mai 2020 à décembre 2020. Finalement, ça a été prolongé jusqu'à avril 2021. Et ces paiements-là, donc on les reporte et ils vont s'ajouter aux paiements de 2022 à 2024, en fait. Et donc, c'est la mesure d'ampleur, entre guillemets, qui est mise en place. Et cette mesure d'ampleur, annoncée à tambour battant par ces institutions, c'est 1,6% de la dette des pays du Sud. Donc, c'est peanuts. C'est rien du tout. Et l'ironie de l'histoire, si je peux parler comme ça, parce qu'en soi, vu l'impact pour les populations, ça n'a rien d'ironique, la Banque mondiale et le FMI qui appellent à des annulations de dette auprès des pays du G20, eux-mêmes ne s'appliquent pas la même discipline, c'est-à-dire ni la Banque mondiale ni le FMI n'ont concédé quelconque annulation. Ils se refusent à concéder quelconque annulation. Au nom de quoi ? C'est tout à fait intéressant. Au nom de leur crédibilité sur les marchés financiers. Parce que la Banque mondiale et le FMI se financent comment ? Notamment en empruntant sur les marchés financiers. Et donc, ça veut bien dire qu'au nom de l'objectif, de leur objectif de réduction de la pauvreté et de réduction de la dette, en fait, ils sont tout à fait dans une logique financière de répondre aux intérêts des créanciers et des marchés financiers. Les créanciers privés, eux, n'ont absolument pas participé aux suspensions de paiement, alors même que ce sont les principaux créanciers des pays du Sud. Ils détiennent à peu près 65% de la dette des pays du Sud en ce moment, et il n'y a aucun créancier privé qui n'a participé à quelconque opération d'allègement de la dette. Alors, des annulations, donc il n'y en a pas du tout, et des reports ou des allègements, il n'y en a pas du tout non plus.
Sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front et on vient d'entendre Little Face par The National. C'est effectivement un peu dur d'y croire quand on entend nos deux invités, membres du CADTM, le Comité d'abolition des dettes illégitimes, expliquer les mythes et belles déclarations qui entourent ce sujet. Nous les avons tout de même interrogés sur les alternatives et le champ des possibles pour sortir de cette logique odieuse.
Il y a quand même des choses à faire et des solutions. Je crois que le comité dont vous êtes membre propose des solutions, propose d'annuler la dette, propose de mettre en place d'autres choses et surtout de ne pas utiliser que la dette pour financer les États, parce que finalement, il y a quand même d'autres solutions.
Nous, au CLETM, ce qu'on a comme discours, c'est de dire qu'il n'y a rien à attendre de la part des créanciers et des institutions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien à attendre d'eux? Parce qu'en fait, quelconque mesure d'allègement ou d'annulation éventuelle qui pourrait être mise en place sont toujours conditionnés à l'application de ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel des politiques néolibérales. En fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le FMI, là, encore une fois, en cette période de Covid-19. Il a accordé quelques financements d'urgence, qui sont des prêts conditionnés à des politiques d'ajustement structurel, encore et toujours. Donc nous, au CADTM, on considère que le pays, en fait, devrait mettre en avant une première chose, il devrait mettre en place une suspension de son paiement. Il devrait suspendre le paiement de sa dette en avançant trois arguments qui sont invocables en droit international et en particulier dans ce contexte de Covid-19. Ces trois arguments, c'est 1. L'état de nécessité, 2. Le changement fondamental de circonstances et 3. Le cas de force majeure. Et donc, on comprend aisément, juste avec l'intitulé de ces arguments, que la Covid-19, en raison de ses impacts sanitaires, mais aussi économiques, voire alimentaires, parce qu'il y a une série de pays aujourd'hui dépendant de leurs importations, qui sont en phase sécurité alimentaire. Et donc, il est primordial de suspendre le paiement de sa dette pour faire valoir, pour faire prévaloir les droits humains fondamentaux, qui par ailleurs, les droits humains fondamentaux prévalent, ils sont reconnus également dans le droit international, les droits humains fondamentaux prévalent sur les droits des créanciers. Un créancier peut se faire rembourser, et encore, pas dans toutes les situations, mais en tout cas, sûrement pas au détriment des conditions de vie de la population. Et puis d'autre part, nous, ce qu'on met en avant au CADTM, c'est le fait de mettre en place des audits citoyens ou populaires de la dette. Et ces audits, ils ont plusieurs objectifs. L'objectif principal, en tout cas, c'est de déterminer les parts de cette dette que l'on peut considérer comme illégitime, illégale ou odieuse. Alors ça, ce sont des termes bien spécifiques, je ne rentre pas dans le détail pour des questions de temps, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'une dette publique, elle doit être contractée dans l'intérêt général, puisque l'État, c'est nous. C'est nous, en fait. Quand l'État emprunte, il emprunte grâce à notre argent, il emprunte grâce à notre travail, il emprunte grâce à ce que nous, on réalise pour faire de la richesse dans ce pays. Dès lors que l'État contracte un emprunt, il se doit de profiter à la population. Et donc, toute dette qui a été contractée contre l'intérêt général, comment dire ça, les créanciers étaient au courant que cette dette n'allait pas profiter à l'intérêt général, toutes ces dettes peuvent être déterminées comme illégitimes, illégales ou odieuses, et de fait sont nulles et non avenues et doivent être annulées. Et à partir de ce moment-là, on peut libérer en fait énormément d'argent pour financer des secteurs essentiels. Alors bien sûr, ça suppose également de rompre avec notre système actuel. Et pour terminer rapidement, suspendre le paiement de la dette, ça permet aussi d'obliger les créanciers à s'asseoir autour de la table et de négocier. Comme un adage le dit, si vous êtes endetté de 1 000 euros auprès de votre banque et que vous ne pouvez pas rembourser, vous avez un problème auprès de votre banque. Par contre, si vous êtes endetté, je sais pas, à hauteur de 10 millions d'euros auprès de votre banque et que vous ne pouvez pas rembourser, c'est votre banque qui a un problème. Et dans ce cas-là, elle sera prête à négocier et à s'asseoir autour de la table.
D'abord, il y a des personnes qui bénéficient de cette crise et donc il faut mettre à contribution ces personnes-là. Et donc, les détenteurs de titres, les détenteurs de capitaux, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, qui ont vachement profité de cette crise sanitaire. Voilà, il est temps de mettre à contribution aussi les personnes qui ont réellement du capital plutôt que d'en créer du tout neuf. Parce que créer de la dette, en fait, ça implique d'abord qu'on emprunte de l'argent aux générations futures, qu'on promet une croissance éternelle pour la rembourser. Or, on sait que écologiquement, c'est pas viable. Et puis qu'une dette, c'est l'ensemble de la population qui la rembourse. Et donc, par rapport à ce troisième point, pour lequel je pense qu'il faut absolument sortir de cette logique de l'endettement, il est nécessaire, justement, comme le disait Mylène, de sortir de cette logique d'endettement à tout prix. Nécessaire, il n'y a pas d'alternative, on nous dit c'est faux, c'est nous qui remboursons, donc on a le droit de savoir qui sont nos créanciers, pourquoi on rembourse ces dettes, à quoi cet argent va servir, où il va aller, on ne sait rien. Il y a toujours autant d'opacité. Donc, au-delà d'un audit des dettes existantes, il faut absolument, et une suspension, il faut absolument exiger un moratoire, mais imminent, un moratoire, le temps d'un audit, le temps de savoir donc d'où viennent ces dettes, à quoi elles servent et à qui elles bénéficient, et finalement exiger une annulation de ces dettes-là qui permettra de trouver justement l'argent, parce qu'on n'a pas besoin de s'endetter pour trouver l'argent. L'argent de la dette, c'est de l'argent qui existe et qui part vers ses créanciers. Or, on en a besoin. La plupart des pays européens leur première dépense va au remboursement des dettes. Et donc, c'est les premières dépenses avant la santé, avant l'éducation, avant l'accès au logement, avant tous les besoins fondamentaux qui font qu'une société peut survivre. Et donc, c'est essentiel de d'abord couvrir ces besoins fondamentaux, c'est les droits les plus fondamentaux de la population, c'est à ça que sert a priori un gouvernement, c'est de s'assurer que les populations ont accès à ces besoins-là, et ensuite de gérer l'économie. Bon, on peut avoir différentes idéologies par rapport à ça, mais c'est sûr que la croissance éternelle et la dette éternelle, c'est pas viable et c'est pas possible. Donc, demander la contribution des plus riches et annuler les dettes.
Merci beaucoup d'être venu aux oreilles. Ce soir, on recevait des représentants du CADTM, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. J'avais le plaisir d'être avec Eva Betavazzi et Mylan Rivier. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci
beaucoup à vous et bonne continuation.
Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel et on vous a diffusé un entretien avec deux membres du CADTM, le Comité d'abolition des dettes illégitimes, qui a récemment fêté ses 30 ans. 30 ans de lutte contre les mécanismes qui génèrent ces dettes illégitimes.